soyez bénis. Alors, le Seigneur, pendant la louange, m'a rappelé ceci, dans Jean 17, il dit, souvenez, Jean 17, vous savez ce que c'est ? Et maintenant, verset 13, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 15, je répète. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je répète. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alors, les amis, est-ce que ce soir nous n'étions pas dans notre mandat ? De prendre autorité par le pouvoir qui nous a été confié d'être, de devenir enfant de Dieu et de prendre autorité, de briller sur cette terre pour y apporter la vérité et non pas pour se soumettre aux œuvres de l'ennemi. Est-ce que ce n'est pas là ce à quoi nous avons été appelés ? Alors je bénis le Seigneur et je suis dans la joie de ce qu'il nous donne, de ce qu'il ouvre nos bouches, de ce qu'il parle à travers nos bouches et de ce qu'il utilise ses enfants pour être, je t'ai dit quoi, Josette ? Ce fer de lance. Est-ce que, mes amis, vous êtes de cette armée qui se lève pour prendre autorité ? Est-ce que nous pouvons dire ce soir que nous sommes de ce corps qui se lève ? Est-ce que nous pouvons le dire ? Est-ce qu'on peut se positionner dans ce corps d'armée ? Est-ce qu'on est en capacité de dire « Voici mes fantassins, voici mes cavaliers, voici mes archers. » Est-ce que nous avons pris position dans ce corps d'armée ? Alors, je n'avais pas prévu de dire ça, mais le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Et c'est marrant parce que, vous voyez, on fonctionne tous différemment. Et c'est en début de semaine, Alain me dit « Alors, tu vas prêcher sur quoi ?» Alors, j'ai dit « Je ne sais pas. » « C'est quoi le thème ?»« Je ne sais pas. On verra samedi. » Alors, j'ai beau eu préparer quelque chose cette la journée. Et bien, le Seigneur, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Chacun, vous voyez, ben moi, c'est comme ça. Le Seigneur, il dit quelque chose, il te met une pensée dans le cœur, Et puis il la retravaille jusqu'à la dernière minute. Et j'aime ça. Parce que j'ai envie d'être flexible dans les mains du potier. Est-ce que vous aussi, vous avez envie d'être flexible dans les mains du potier? Est-ce que vous avez envie qu'à la dernière minute, il donne une direction différente? Parce que l'esprit souffle des quatre vents. Que ni il ne sait d'où il vient, ni il ne sait où il va. Alors, et puis je vais vous dire un truc. On prépare un message. On semble si sûr de soi. Et quand c'est comme ça, moi, je me pose devant le Seigneur. Et je passe ma journée à pleurer. Parce que c'est comme ça. Quand je suis devant le Seigneur, il n'y a qu'avec lui que je pleure. Et c'est comme ça et j'aime ça. Parce que c'est comme ça que je sens qu'il est là. Et puis, il y a une visite inattendue. 16 heures, je termine mon petit message. Et je reçois un message, un texto. D'une visite surprise, dont je tairai le nom. Qui vient à la maison, désespérée, vide, comme morte. Et là, le Seigneur, dans mon esprit, il dit, il remet tout, il retourne la situation. Il dit, toi, tu avais prévu de prêcher comme ça. Maintenant, un cas concret, tout de suite, maintenant, comment tu vas faire? Et j'étais avec Magda, on a reçu cette personne à la maison. Et j'ai dit, Seigneur, je comprends rien. Je comprends pas. Le Seigneur dit, bah, t'as pas besoin de comprendre. Laisse faire. On n'a pas besoin de tout comprendre. On n'a pas besoin de tout analyser. Et c'est pas facile. Vous savez, il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Très difficiles. On n'a pas idée. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de ces personnes. Et dans mes conseils, ben à un moment donné, je me suis dit, j'ai essayé de me mettre à sa place, mais je ne suis pas à sa place. Et mes conseils ne sont donc pas avisés. J'ai dit, mais alors Seigneur, cette personne, elle est venue là pour prendre conseil. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'on dit? Je dis, cette personne, ça fait 20 ans peut-être qu'elle se trimballe avec les mêmes problèmes. Elle est allée voir tous les pasteurs de France et de Navarre, toutes les personnes, toutes ces personnes qui ont pu prier pour elle, chasser les esprits de mort. Elle en est toujours au même point. Des gens bien plus grands que nous, que moi. Et rebelote. Je peux vous dire qu'on n'a qu'une envie à ce moment-là, c'est de se cacher et de dire, bah Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire de mieux, nous? Tu vois? Et là, le Seigneur me dit, bah mon fils, tu vois, s'il y a des gens qui sont forts au milieu de nous, il y a aussi des gens qui sont faibles. Et les forts, ils ont été faits pour les faibles. C'est ainsi. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Nous aurons toujours les pauvres avec nous. Et si nous sommes forts, c'est pour ceux qui sont faibles, nous dit la parole. Romains 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter les opinions. C'est tout. Nous n'avons pas à discuter ou à essayer d'expliquer. Nous avons à accueillir et prier, encourager, élever et continuer, même après 20 ans, que cette personne est toujours dans la même situation. Continuer à espérer que le Seigneur va faire briller sa face sur cette personne et sur toutes vos situations, sur toutes nos situations qui nous échappent et que nous ne comprenons pas. Car il n'y a rien de définitif pour le Seigneur. Rien qui ne soit trop grand pour lui. Amen à ça. Alors, de toute évidence, une visite comme ça, ben, ça change la perspective des choses. Et, bon, je vais quand même essayer de vous rendre ce message comme je l'ai reçu initialement, parce qu'il est bon, ce message. J'en suis sûr. Puisqu'il a été bon pour moi, il le sera pour vous. Bon. Je me souviens, il y a 2 ans, j'avais dit ici même, j'avais dit les amis, attention, hein. S'il y en a un de vous qui quitte cette église, moi je vais le poursuivre. Hein. Bon. Ben, je crois que je serai mort de fatigue. Oui, je les poursuis. Différemment de ce que j'avais imaginé. Mais le Seigneur cherche aussi à me préserver, mon frère. Je pense que je serais mort d'épuisement. Alors j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cet étrange phénomène par lequel moins il y a de monde, plus c'est lourd à porter. Qu'est-ce que c'est? Normalement, s'il y a moins de gens, c'est moins lourd, plus léger. 50 plus 50 kilos égale 100. Si tu enlèves quelqu'un qui fait 30 kilos à 70, c'est plus léger, quoi. J'ai dit, même la science n'est pas capable d'expliquer ça. Voilà. Bon, bref. Alors, ça s'est présenté sous forme de conversation que j'ai eue avec le Seigneur cet après-midi. Et j'ai demandé quand même une explication à ces choses qui nous échappent. Et voilà que le Seigneur m'a montré quelque chose en esprit à ce moment-là. Je vais essayer de vous le rendre. J'ai fermé les yeux, j'ai vu un rectangle carré. J'ai ouvert les yeux et j'étais en train de tirer ce rectangle carré qui était en fait un gros bloc de pierre. Donc je tirais comme ça, un bloc de pierre derrière moi, mais je ne le regardais pas encore. J'ai dit, Seigneur, c'est lourd. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que c'est si lourd? Je me plaignais que c'était lourd. Je n'étais pas en train de tirer ce bloc avec gaieté de cœur. Je me plaignais que c'était lourd. J'ai dit, Seigneur, c'est trop lourd, je n'y arrive plus. Et j'ai regardé en arrière. J'ai vu que je n'étais pas seul. Je croyais être seul, j'ai vu que je n'étais pas seul. D'autres tiraient avec moi, mais dans la peine aussi. J'ai vu ce gros bloc de pierre. Et Seigneur, il dit, regarde pas, continue d'avancer, tire, tirez, avancez. J'ai dit, c'est quoi ce bloc énorme? Et Seigneur m'a dit, c'est là le tas de pierres de ceux qui les ont laissés là et sont partis. Je vais m'expliquer. J'ai dit, pourquoi? Ils ont laissé leur pierre. Et le Seigneur a répondu, parce qu'ils vont revenir les chercher. Vous entendez? Ils vont revenir les chercher. On va comprendre. J'ai dit, d'accord. Ils vont revenir les chercher et à nouveau tirer avec nous. Et j'ai dit, pourquoi ils sont partis? C'est marrant parce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas non plus tout comprendre. Mais moi, j'aime la transparence. J'aime bien ne rien cacher. Si tant est que cela est possible, parfois ce n'est pas toujours aussi simple qu'on ne le dit. Mais j'aime ça. Je dis, Seigneur, pourquoi ils sont partis? Alors, c'est là que le Seigneur a donné le titre de mon message. Est-ce que ça vous parle ce mot qui dit, en grec, makrotimesat? Makrotimesat. Un petit piège, un petit... Macrotimésate, patience. Patience, dans le sens d'avoir le souffle long. Et qui utilise ce mot? C'est Jacques. Et Alain m'a dit tout à l'heure, la patience, c'est aussi la faculté de résister à la pression. C'est le mot utilisé dans Jacques 5, verset 7. Prenez donc patience. Prenez donc patience, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez, le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre avec patience. Attends, je regarde si c'est bien la bonne version. Le laboureur, cultivateur, attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Bien. Qui c'est ce cultivateur? Qui sont ces laboureurs? C'est nous. Nous sommes les cultivateurs, nous sommes les laboureurs de ce champ. Que se passe-t-il? Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il prend patience jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. J'ai dit, Seigneur, c'est long. C'est long. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps? Que fait-on dans le désert de la patience? Et surtout, combien de temps ça va encore durer, cette histoire? Hein? Est-ce que ce ne sont pas des questions qu'on se pose tout le temps? Combien de temps encore ça va durer, cette histoire, Seigneur? Qui fait pleuvoir, les amis? Qui envoie la pluie? Qui envoie la pluie de l'arrière-saison? Sur quelle terre, sur quel type de terre, l'envoyeur de pluie fait pleuvoir sur une terre desséchée, aride, sèche comme la pierre? Et sans cette pluie de la première saison, impossible de labourer, impossible de semer, la semence ne prendrait pas. Les amis, combien de temps encore va-t-on murmurer dans cette période de désert? Nous sommes face à nos responsabilités. Combien de temps allons encore nous murmurer et nous plaindre devant celui qui ouvre les écluses des cieux pour faire pleuvoir? Lui, le maître de la moisson. Combien de temps? On a la réponse ici. Sur la première phrase, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Quand est-ce que le Seigneur revient? Si quelqu'un a une date, je suis preneur. Quand est-ce que le Seigneur revient? On peut reconnaître que Jésus il utilise de nombreuses fois l'image des champs, des récoltes, comme un moyen de nous faire comprendre comment fonctionne son royaume. Alors j'ai dit, Seigneur, pourquoi un été si long et sec? Et qui est responsable de cet été si long et sec? Et le Seigneur me dit tranquille, c'est moi. Donc moi, je me plains d'une situation, c'est long. Qui est responsable de cette situation? Le Seigneur dit, c'est moi. Quand nous aimons, nous, hommes, trouver des responsables à nos problèmes, le Seigneur dit, c'est moi. À cause de quoi? À cause de l'endurcissement des cœurs. Je retiens la pluie. Maintenant, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tes ouvriers sont partis de ton champ et ont laissé là leurs pierres. Je ne sais pas si nous sommes prêts à entendre ça. J'en sais rien. Mais de toute évidence, ça m'a percuté moi aussi. Le Seigneur a répondu d'une manière très claire. Il a dit, ils n'ont pas aimé ma nourriture. La nourriture était trop solide. Et leur cœur s'est endurci. Ils ont préféré le lait. C'est pourquoi ils sont partis. Mais ils ont laissé là leur pierre sur mon champ. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 2 nous dit ceci. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Comment ça parle à nos cœurs, ça ? Comment est-ce que vous êtes, que nous sommes encore en mesure de supporter autant de lait pour nos corps d'adultes ? Comment en est-on arrivé à ce point ? J'étais là, je me disais, mais Seigneur, à moi-même, je disais, mais Seigneur, mon corps est mou. Le lait a rendu mou mon corps. J'ai dit, d'où ça vient ça ? Alors j'ai dressé un constat. Et j'ai retracé ma propre histoire. Et voyez-vous, je vous parle avec mon cœur ce soir, avec ma compréhension des choses, puis de toute évidence vous avez aussi la vôtre, votre propre histoire. Mais je viens d'une église, de l'église de mes yeux notamment, qui lorsque j'étais enfant, puisque j'étais enfant, donc je ne me souviens pas de ce qui s'est passé là-bas. J'étais peut-être là, mais je ne m'en souviens pas. Alors, maintenant, je vous parle comme un fils, à vous qui étiez là. Moi, je ne m'en souviens pas. Tout ce dont je connais de cette période, c'est ce que j'ai entendu de cette période. Mais on ne forge pas un homme avec des souvenirs, avec des on-dit. L'homme se forge avec aujourd'hui, principalement. Et j'ai dit, j'étais pas là. Donc encore une fois, c'est moi en tant que fils qui vous dit ça. Vous voyez, comprenez ? C'est mon regard à moi. J'ai dit, Seigneur, tu les as arrosés de lait. Tu as béni cette période du vin nouveau. Ils ont vu des choses se passer. Ils ont été témoins de ce que tu as fait. Moi, je n'ai fait qu'entendre ces choses. Je ne les ai jamais vues. Donc, je ne pourrais pas reproduire, moi, ni qui que ce soit, les choses que nous n'avons pas vues. Alors, nous serons les hommes et les femmes que nous devons être aujourd'hui. Je n'ai jamais connu de saison aussi fertile que celle-ci dans l'histoire de cette église. Pourtant, mes yeux ne se souviennent de rien. Mes oreilles n'ont fait qu'entendre des histoires au sujet de cette saison. Pour ma part, dès lors, je n'ai connu qu'une période de désert. Désert sur désert. L'Église s'est vidée, littéralement. Et c'est moi, tout ce que j'ai connu. Je n'ai pas connu d'époque prospère comme vous avez pu la connaître. J'étais pas là. J'étais là, mais je ne m'en souviens pas. Et voilà, Seigneur, que maintenant tu viens me chercher, tu viens nous chercher, puis tu nous dis, tirez ce bloc de pierre. Tirez malgré tout ce bloc de pierre. J'ai dit, Seigneur, mais on est fou de tirer un bloc de pierre mort. J'ai dit, nous sommes fous. Le Seigneur m'a dit, j'ai forgé et formé mes héros loin du bruit. Je les ai formés dans le secret de leur chambre. Et nous, les amis, qui sommes-nous? Le Seigneur nous dit, vous êtes mes héros, que je nourris avec de la nourriture solide, pour faire de vous des porteurs de barriques de lait pour mes nouveau-nés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons qui nous sommes? Nous avons besoin de nourriture solide pour devenir ces porteurs de lait pour les nouveau-nés à venir. De fait, nous ne pouvons plus seulement nous nourrir de ce lait si bon. De toute évidence, l'Église du Tabernacle, nous devons avancer sur un chemin nouveau et différent de cette époque où le lait fut en abondance. Ce n'est pas un reproche que Dieu nous fait. Et on va lire pourquoi. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un poids. Simplement, comme tout à l'heure on a commencé, j'en ai conclu que Dieu, notre Père, était en train de faire l'inventaire, le bilan. Il était en train de faire l'inventaire de ses forces vives. Et du coup, j'ai fait le rapprochement avec ce que je suis en train de vivre moi-même, avec mes clients que le Seigneur m'a confiés dans la gestion de leur portefeuille administratif et financier. Et sur le dernier mois, nous avons eu à gérer deux bilans. Pour un dirigeant, un patron d'entreprise, le bilan financier, c'est quelque chose de très attendu. Oui ou non, Nathalie? Pourquoi? Parce que sans bilan, on ne sait pas si on peut investir dans telle ou telle chose ou comment on peut le faire. Et on a besoin de savoir où est-ce qu'on en est pour savoir comment on va utiliser les forces que nous avons à disposition pour investir dans tel ou tel endroit. C'est très attendu, ce genre de bilan. Est-ce que vous pensez Dieu capable de faire un tel bilan? Est-ce que vous pensez Dieu capable de regarder du haut de son trône ses enfants et de dire où sont mes fantassins, où sont mes cavaliers, où sont ceux qui se tiennent sur la brèche, où sont-ils ceux que j'ai nourris de la nourriture solide? Parce que j'en ai besoin. Il faut que je les envoie. Je dois envoyer mes enfants, mais ils ne vont pas pouvoir subsister s'ils ne se nourrissent que de lait. Nous avons aimé le lait, à juste titre. Mais la parole du Seigneur était celle-ci. Ils n'ont pas aimé ma nourriture solide. Alors, ils sont partis servir peut-être d'autres dieux plus compatissants quelque part. Et puis, le Seigneur dit, non, ça c'est moi qui dis en fait, pourquoi faut partir en guerre ? Qu'est-ce que c'est que cette image de guerre ? Enfin, je veux dire, même bibliquement, à aucun moment donné, il dit, ouais, j'envoie mon armée, enfin quoi que si, mais pourquoi la guerre ? Je n'ai pas signé pour aller faire la guerre, moi. Vous avez signé pour aller faire la guerre ? Amen. Il y en a qui disent oui. Mais quand le Seigneur est venu nous chercher, est-ce qu'on savait que c'était pour partir en guerre ensuite ? Hein ? Ah, je ne savais pas, elle dit ma sœur. Et pourquoi croyez-vous que dans la parole, il est fait mention d'une armure ? Pourquoi le Seigneur voudrait-il nous revêtir d'une armure si ce n'est pas pour partir en guerre ? Et croyez-vous seulement qu'il va prendre des guerriers ramollis par le lait ? Le croit-on, ça ? Moi, patron, jamais. Moi, dirigeant d'une entreprise, je n'envoie pas mes guerriers pleins de lait sur le front. Je dirais, tu es trop mou. Tu restes là. Sommes-nous de ces guerriers-là ? Est-ce que ce que je vous dis vous effraie ? Je crois que si nous estimons que c'est Dieu qui nous revêt de cette armure, et c'est le cas, c'est Dieu qui revêt cette armure. Cette armure, c'est quoi ? Est-ce qu'on se souvient ? La ceinture de là, allons-nous dire au porteur de là, est-ce qu'on va lui dire, je n'ai pas envie de ta ceinture, de la vérité. Je préfère la ceinture du mensonge. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que nous allons dire, tiens, mon fils, ma fille, prends tes chaussures pour aller annoncer l'évangile. J'aime pas ces chaussures. Je n'aime pas aller annoncer l'évangile, j'ai trop peur. Ben, prends-moi ton bouclier. Le bouclier de quoi ? De la foi. Mais j'ai pas la foi. Et le casque de ton... Le casque du salut. Quoi d'autre ? Oui, mais moi, la justice de Dieu, je n'aime pas. Je ne la comprends pas. Elle me fait trop peur, c'est trop grand pour moi. Qui ne comprend pas la justice de Dieu ? Selon sa parole. Qui, déjà, n'a pas compris toujours la justice de Dieu et le trouvait injuste, moi je peux le dire. Oui, ça m'est arrivé. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'aurais pas fait comme ça. Oui, j'ai dit ça à Dieu, oui. Il ne s'agit pas, les amis, de lire, juste lire. Il s'agit de s'approprier ceci. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Il est évident, les amis, que ceux qui ne mettent pas en pratique ceci et la vie qui en découle Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ça? Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec de tels ouvriers? Ce n'est pas un jugement, les amis. Mais moi, patron, et je suis actuellement un gars qui est formidable, il a 4 salariés et il s'envoie avec eux. Et je ne vais pas venir travailler parce que j'ai mal à la tête. Et je trouve que ça, c'est injuste. Et je trouve que si. Et je trouve que là, en perpétuelle rébellion envers le patron. Sommes-nous de ces ouvriers? Et croyez-vous que Dieu acceptera de tels ouvriers dans son champ? Croyez-vous que Dieu acceptera de tels ouvriers dans son champ? Non. Non. Il le retranchera, la parole nous dit. Puisque celui qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Ça, c'est la parole de Dieu. Et je ne peux pas juste passer à côté des vérités qui nous concernent trop. Mais si on dit ça comme ça, les gens qui sont habitués à boire le lait ne vont pas avoir envie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Ils fuient devant la vérité. Notre péché est d'avoir enfermé celui que nous prétendons aimer dans le seul rôle de sauveur, en le séparant de sa nature même de Seigneur. Est-ce qu'on fait la distinction entre ce qui est pourtant indissociable? Il est le Seigneur et Sauveur. Mais nous n'avons accepté qu'une seule partie, celle du Sauveur. Le Seigneur, c'est ce qu'il est. Sauvé, c'est ce qu'il a fait. Et Jésus nous a sauvés. C'était pour devenir notre Seigneur. Et je vais peut-être aller loin dans l'image que je vais vous donner, mais accepterions-nous qu'une mère donne du lait à son enfant de 15 ans? Accepterions-nous? Vous pouvez vous faire l'image. Moi, j'ai vu une mère dans un truc avec des jeux, là. L'enfant avait... Je sais pas, on était ensemble, Magda. Beaucoup trop grand pour boire le lait dans le sein maternel. Beaucoup trop grand, ça m'a dégoûté. Bleh. En plus, en public. Et en plus, bon, bref. C'est inacceptable. Voilà. Ce n'est pas acceptable dans le royaume de Dieu, ça. On ne peut pas, 15 ans de conversion, se satisfaire de lait. Et ce n'est pas un jugement, les amis. Mais regardez l'image même que je viens de vous faire et vous jugerez vous-même que ce n'est pas acceptable. Pourtant, Jésus va opérer en nous un miracle. Parce qu'il a dit, soyez comme des enfants, soyez comme eux. Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. D'un côté, il va nous dire, soyez comme eux, ayez le même cœur qu'eux. Et d'un autre côté, il va nous demander de grandir en adultes, de discernement en discernement et de maturité en maturité. Oui, à ça? Pour illustrer ce propos, je voudrais aussi qu'on parle de l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche. Justement, un passage très intéressant de la parole qui montre que les disciples ne comprenaient pas Jésus. Vous vous souvenez de ce passage? Le jeune homme riche. Oui. Les disciples n'ont pas compris. Jésus aurait-il changé entre-temps, entre lorsqu'il racontait son histoire et qui il est? Non, il est le même. Là, il est évoqué le fait des richesses. Mais pour nos vies, on peut s'approprier ça comme tout ce qui peut nous séparer de lui et du Père, de la volonté du Père pour notre vie. Un péché qui persiste ou que ne sais-je encore. Que fait Jésus dans l'histoire avec le jeune homme riche? Il écoute le jeune homme et que fait-il? Je pose la question. Il a écouté le jeune homme. Que fait-il d'abord avant de parler plus avant? Il l'aima. Il l'aima. Le fondement, la base. Il l'aima. Il nous aima. Il nous aime. La base, la pierre angulaire, Jésus-Christ le Sauveur. Jésus se positionne en sauveur, il aime. Est-ce que vous vous sentez aimé? Toujours? C'est bon? Rien ne vous a ravi votre paix ce soir. Donc nous sommes aimés, le fondement. Que fait Jésus après ça? Parce que la question en réalité n'est pas de savoir si Jésus nous aime, les amis. Cette question a été réglée à la croix, il nous l'a prouvé, il l'a montré. Oui, donc la question n'est pas de savoir si Jésus nous aime, pour ce qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, puisque pour ce qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, il a réglé ça à la croix. La vraie question, les amis, c'est de savoir si nous l'aimons. Autant qu'on prétend le dire. C'est ça la vraie question. Et il est bon de se la poser maintenant, cette question, les amis. Alors Jésus, après s'être positionné dans son rôle de sauveur, il va maintenant parler en Seigneur à ce jeune. Que va-t-il faire ? Que va-t-il faire après avoir dit « Il l'aima » ? Je suis juste un peu déconcentré par la sonnerie. C'est pas grave, hein, mais... Il va lui dire la vérité. Il va lui dire la vérité sur son compte à ce pauvre jeune homme qui vient en toute humilité, pensant faire bien. Après l'avoir aimé, il va lui dire la vérité. Après l'avoir sauvé, il se positionne en Seigneur. Parce que l'amour, le véritable amour, réside dans la vérité. L'amour, ce n'est pas aller dans le même sens que celui qui est vautré dans son péché, en lui disant « c'est pas grave, t'inquiète, Jésus t'aime ». Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Non. C'est faux. Ce n'est pas ça, aimer quelqu'un dont vous savez pertinemment qu'il vit dans le péché et que vous, en plus de ça, vous l'encouragez à y rester en disant « Jésus t'aime, t'inquiète ». Non. Ce n'est pas aimer quelqu'un que de laisser la personne dans son péché. Aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité, ce que Jésus va faire. Jésus, après avoir donné le lait à ce jeune homme riche, va vouloir lui donner de la nourriture solide. Que fait le jeune homme riche ? Après avoir entendu ça, il est parti, tout triste. Écoutez bien, il est parti tout triste. Et j'ajoute, laissant là sa pierre de déception. Est-ce que nous comprenons le gros tas de pierres? Laissant là sa pierre de déception, rejetant sur l'homme la faute de son propre péché ou de sa propre immaturité, à ne pas être en mesure d'accepter la nourriture solide que son Seigneur a proposée. Et en disant, on a manqué d'amour à mon égard. Non, on t'a aimé, justement. Mais ton réceptacle n'était pas suffisamment prêt à recevoir ce type d'amour. Est-ce que vous me suivez, les amis? Est-ce que je dis des bêtises? Qu'a fait Jésus? Est-ce qu'il a couru après la personne qui est partie? Le passage ne nous le dit pas. Ça, je ne le dis pas explicitement. Jésus coura après le jeune homme riche pour ne pas qu'il s'en aille tout triste. Il voulut le consoler. Non. Non. Le jeune homme riche sait exactement ce qu'il a à faire. Oui, les amis. Les gens, les personnes, les frères et sœurs que nous chérissons tant, laissant là leur pierre de déception, savent tout à fait ce qu'ils ont à faire. Et nous ne pouvons pas prétendre appartenir à un corps et laisser des pierres de déception sur nos passages, partout où on passe, et laisser le poids de la déception à d'autres, qui, eux, tirent la maison, qui, eux, cultivent, labourent, sèment, et dire encore que c'est de leur faute. Non, les amis. La pierre de déception, c'est l'endroit même où Jésus nous attend, chacun, là où nous avons posé nos pierres de déception. Et bien que déçu, le jeune homme va devoir un jour ou l'autre revenir à l'endroit de la déception pour régler ce qui le sépare encore du seul et unique Dieu, son Père. Dieu n'a-t-il pas promis qu'il ramènerait ici ses enfants ? N'a-t-il pas promis? Est-ce que ce n'est pas dans sa promesse? À quel coût? Et de quel genre d'amour allons-nous faire preuve pour ramener le cœur de ses fils vers leur père et le cœur de ses pères vers leur fils? De quel genre d'amour allons-nous faire preuve? Celui qui va dans le sens du mensonge? Ou celui qui va dans le sens de la vérité. C'est ainsi que je termine ce message. Mais on va prier, si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes disposés? Est-ce que vous êtes disposés? Et je répète ce que j'ai dit déjà deux fois. Les temps dans lesquels nous nous trouvons, pour notre assemblée, sont autant de la nourriture solide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lait. Ça veut dire que nous allons être ceux qui vont donner le lait. N'est-ce pas plus réjouissant comme ça? Est-ce que c'est pas plus réjouissant comme ça? Amen. De fait, même Joseph, il avait les deux mains au ciel, j'ai vu. Tu l'as vu faire, hein? Amen, il dit. Mon frère, il comprend tout là-bas. De fait, Eh bien, il ne faut pas s'étonner que le Seigneur soit en train de faire son inventaire. Oui. Est-ce que nous voulons cultiver ce champ? Est-ce que nous voulons être des cultivateurs? Là est la vraie question. Ou peut-être que nous ne voulons plus cultiver ce champ. Est-ce que nous voulons être des cultivateurs ou est-ce que nous ne voulons plus être des cultivateurs? C'est une question sincère que je pose devant le Seigneur. Moi et mes amis, nous continuerons de tirer ce bloc de pierre. Jusqu'à ce que le Seigneur en décide autrement. Mais nous attendons avec une grande impatience dans le désert que le Seigneur vienne ajouter des ouvriers dans sa moisson. Et nous comprenons l'état général de l'Église avec un grand E. Lorsque Dieu lui-même dit « Où sont mes ouvriers ?» J'ai demandé des ouvriers, mais il n'en a pas trouvé. Où sont ceux qui se tiennent sur la brèche? Où sont ceux qui vont aller au front, se mettre à couvert? Où sont mes ouvriers? Où sont mes tailleurs de pierre? Où sont ceux qui bâtissent et qui cessent de geindre après moi? Qui cessent de se plaindre mais qui ne font qu'exécuter mes ordres? Où sont mes obéisseurs? Où sont les bâtisseurs? Les amis, sur cette parole, je vais prier. Seigneur, je sais que tu fais une œuvre qui est parfaite au milieu de nous, parce qu'il ne peut pas en être autrement, puisque tu es parfait. Et Seigneur, c'est vraiment avec un cœur humble, avec humilité, que nous venons devant toi implorer ta grâce, implorer ton pardon. Seigneur, tu es le Saint-Esprit. Toi seul convainc tes enfants. C'est toi qui convainc de péché. C'est toi qui dis, détourne-toi ma fille, mon fils. C'est toi qui rappelle les choses. C'est toi qui mets en place les nouvelles. Nous voulons être des hommes et des femmes qui appartiennent à aujourd'hui. Nous voulons être des hommes et des femmes qui répondent au pain d'aujourd'hui. Qui ne ressassons pas les choses du passé, mais qui lèvent la tête pour les choses à venir. Nous voulons dans nos cœurs accueillir ceux que tu vas nous envoyer. Nous voulons être prêts à donner le lait à tes nouveau-nés. Nous voulons être disposés à sortir avec notre armure, sans remettre en question la ceinture de la vérité à chacun de nos pas, parce qu'on se plante des flèches. Injustement, nous nous prenons des flèches. Nous voulons marcher en vérité et en esprit renouvelé. Seigneur, je te prie pour cette église du tabernacle, afin que ta main, Seigneur, soit sur chacun de nous. Père, je prie que ta volonté soit faite dans le nom de Jésus.